Chapitre 12. Hier, le temps s'était couvert, un vent violent me jetait de côté pendant que je revenais de la côte. Cette lutte me faisait plaisir. Je m'imaginais combattre pour un but difficile à atteindre, mais que j'atteindrais. Je ne sais pourquoi l'imagination rend si vives les idées absurdes qui n'ont rien à voir avec la réalité. En arrivant sur le quai, je m'approchai d'un pêcheur et le questionnai sur le temps. « La tempête sera grosse, me dit-il. Les bateaux sont rentrés au port. Vous avez vu la mer ?»« Oui, elle est démontée. Si on ne peut pas allumer les feux, il y aura des malheurs cette nuit. »« Pourquoi n'allumerait-on pas les feux ? » demandai-je avec surprise. J'ai vu par des temps pareils qu'on ne pouvait pas arriver au phare. Quand le vent est trop violent, il vous empêche de respirer et les lames balaient la jetée. « Ce serait terrible, dis-je. » Antoine n'est pas de la première jeunesse, mais c'est un gaillard courageux. Il fera l'impossible pour réussir. En rentrant, je racontai ma conversation avec le pêcheur. « J'espère bien, dit André, qu'on parviendra à allumer. J'irai voir. Savez-vous, Jacqueline, si on avancera l'heure de l'allumage ?»« Oui, je crois. On n'attendra pas la nuit qui sera sombre. » À 8 heures, on n'y verra presque plus, tant le ciel est bas. Bien que sa fiancée dût venir dîner, André partit, en effet. Sans rien dire, je m'enveloppai dans un châle, dont je ramenai la pointe sur ma tête, car il était bien impossible de mettre un chapeau, et je m'avançai à grand-peine vers l'endroit où des hommes étaient rassemblés pour assister au départ de l'allumeur des feux. En cas de tempête, il s'installe dans une sorte de machine roulante dont j'ignore le nom, fortement attachée à la rampe de fer qui longe le rebord de la jetée. Il reste libre de ses mouvements, mais il ne court aucun risque d'être renversé par le vent ou enlevé par une lame. Lorsque j'arrivai, il avait déjà tenté 5 fois d'avancer vers le phare et 5 fois, suffoqué par le vent, l'écume, l'eau qui lui fouettait le visage, il était revenu en arrière. Devant moi, il se lança une 6e fois, mais revint plus suffoqué encore car le sang lui sortait par le nez. Blotti contre le bord de la jetée, je l'entendis qui disait à André « Je ne puis pas, il faut y renoncer ». « Renoncer au feu, s'écria André, c'est impossible. Des vapeurs ont été signalées, il serait perdu. »« J'ai essayé 6 fois, répondit Antoine, encore tout haletant. » « J'y vais, dit André résolument. J'ai le souffle jeune, je résisterai aux rafales. Donnez les clés du phare. » Les hommes se pressèrent autour de lui en protestant, mais il leur cria en riant. « Vous savez, un ingénieur se tire toujours d'affaire. » Il se fit installer sur la machine roulante, écouta quelques explications d'Antoine. « Le câble qui vous attache est long. Ne le lâchez pas en arrivant là-bas, vous ne pourriez plus revenir. »« Compris, » s'écria-t-il. Et il se lança avec la fougue charmante de la jeunesse. Personne ne parlait, ou plutôt ne criait, car il fallait donner toute sa voix pour se faire entendre. Inconsciemment, je m'étais approché d'Antoine et j'avais saisi son bras. « Que faites-vous là? Pourquoi êtes-vous venu ?» Dans mon effroi, j'étais incapable de parler. Je vis seulement une expression de commisération sur sa rude figure. « Ne défaillez pas, me crie-t-il, le danger n'est pas immense. Et puis, nous le sauverions. »« Comment? Vous n'avez pas pu avancer ?» Il ne m'entendit pas, mais il me comprit et me désigna 2 jeunes marins qui avaient passé des cordes autour de leurs reins. L'extrémité de la corde devait être tenue par les hommes au cas où il eût fallu partir. André s'était lancé avec tant de force que, malgré la tempête, son élan l'avait rapidement porté assez loin. Bien que la nuit ne fût pas encore tombée, les flots d'écume le cachaient complètement. Et il y avait près de 25 minutes que son départ nous maintenait dans l'angoisse. « Pourquoi ne partent-ils pas ? » demandai-je en désignant les 2 marins. « Il est encore trop tôt, il faut !» Mais il s'interrompit pour crier « Hurrah !» avec les autres pêcheurs. Le phare allumé tournait et projetait sur nous sa lumière. « Le brave gars !» Pour revenir, le vent eût été par derrière s'il n'avait soufflé en tempête. La difficulté pour André était d'approcher de la machine roulante et de s'y attacher. Cramponné au bras de l'allumeur, il comprit quelle était ma pensée à la pression plus forte de ma main. « N'ayez pas peur, il réussira. Il a un sang-froid du diable et n'aura pas lâché la corde. Il a certainement attaché à la porte du phare. Mais il lui faudra un certain temps pour revenir. » Ce temps me parut bien long, si long que j'en ignore la durée exacte. Enfin, on l'aperçut. Il paraissait à bout de force. Les deux marins coururent à lui et l'aidèrent à terminer ce terrible trajet. Il était suffoqué, trempé, et resta quelques minutes sans pouvoir parler. Mais quand il eut repris haleine, il riait en serrant les mains qui se tendaient vers lui. « Vous êtes un fameux luron, monsieur l'ingénieur !» lui criait-on. « Allons, maintenant, laissez-moi regagner mon gîte. J'en ai besoin. » On s'écarta pour le laisser partir. Il ne me vit pas, heureusement. Et, tout en trébuchant, j'allais m'abriter derrière une construction en planche. Puis, lorsque je jugeai qu'il avait eu le temps de rentrer, je me dirigeai vers la maison. Il était dans le salon, entouré par les Duchélanes et répondant joyeusement aux questions de sa mère. Ma tante avait le cœur trop haut pour s'apesantir sur un danger quand il avait été couru pour accomplir une bonne action. Un peu tremblante, elle se borna à embrasser son fils en le félicitant. « Est-ce possible? C'est de la folie !» s'écria Madame Duchélanes. « Même par les chemins intérieurs, nous avons eu de la peine à parvenir jusqu'au quai Lénigo. » « Oh, pourquoi avez-vous fait cela ?» dit Marie avec sa petite moue enfantine. « Comment ?» répondit André avec un étonnement où perçait quelque impatience. « Oh oui, vous êtes tout mouillé !»« C'est grave, » dit-il, moitié riant, moitié mécontent. « Ne viens-je pas de vous dire que sans les feux, des navires pouvaient venir se briser à la côte ?»«
Ils ne se seraient pas brisés. Pourquoi se seraient-ils brisés ?»«
Vous savez cependant que les phares ont leur utilité ?»«
Eh bien, les navires auraient fait comme ils auraient pu. »«
Comment comme ils auraient pu ?» répéta André d'un ton qui, à la place de Marie, m'eût fait rentrer sous terre.
« Mais oui, certainement, il serait allé de notre côté. Je n'aime pas les aventures. Et comme vous êtes trempée !»
Elle ne voyait même pas le front crispé de mon cousin pendant qu'elle insistait sur le fait extraordinaire de voir son fiancé mouillé. Un nuage assombrissait le visage de ma tante. « Vous ne semblez pas comprendre, dit-elle doucement, que votre fiancé vient de courir un danger réel. »
« Ma fille comprend très bien, » répliqua aussitôt Madame Duchélanes d'un ton hérissé. « Mais il est naturel qu'elle soit un peu surprise. »
Ma tante ne répondit pas. Le nuage altérait toujours son charmant visage, mais elle prévint toute discussion en disant à André «
Presse-toi de mettre des vêtements secs. Le dîner est en retard de 2 heures. »«
Tiens, je ne pensais plus à ma toilette. » C'est alors que, se détournant, il m'aperçut. Tout ébouriffé par le vent, trempé moi-même par l'embrun, et sous le coup d'une émotion qui durait encore, je devais avoir une triste mine.
« D'où venez-vous, Jacqueline ? » s'écria André. « Comme vous êtes pâle ! Êtes-vous malade ?»«
Je viens de là-bas, » répondis-je. « J'étais sortie pour voir la tempête et j'assistais à votre prouesse. »«
Est-ce possible ? Quelle idée ! Votre place était ici.
Tout ce que j'ai vu m'a paru intéressant et curieux, répondis-je machinalement.
Vous étiez là ? Répéta André.
Tu as l'air horriblement fatigué, ma chère enfant, dit ma tante en s'avançant vers moi.
Il est certain, dis-je avec un sourire que je sentais navré malgré moi, il est certain que ce grand vent m'a étourdi, je ne tiens pas debout.
Aussi, comme c'est ridicule d'être sorti par un temps pareil, s'écria judicieusement Mademoiselle Duchélanes.
Retire-toi dans ta chambre, Jacqueline, dit vivement Madame d'Arlancey qui craignait ma riposte. Je t'y ferai servir à dîner.
Je profitai avec joie de la permission en bénissant le tact de ma tante qui savait si bien aller au-devant de mon désir. André courut m'ouvrir la porte et me jeta un regard inquiet.
Après 2 heures de repos et après avoir soigné ma toilette, je descendis au salon. Mon cousin vint à moi avec empressement. « Êtes-vous mieux, Jacqueline ?»«
Certainement, ce n'était rien. Je n'ai pas affronté, que je sache, les mêmes dangers que vous, cousin. » »«
N'importe, votre mine défaite m'inquiétait. Ce que vous avez fait est bien déraisonnable. Vous auriez pu être blessé par le vent ou, tout au moins, attraper un bon rhume. » Je ne sais si ma physionomie exprima, malgré moi, la souffrance qui me déchirait intérieurement, mais son expression se modifia. Il me prit doucement par la main et me conduisit à sa mère.
« Veillez désormais pour qu'elle ne recommence pas, » dit-il à ma tante d'un ton un peu ému.
Madame d'Arlancey me sourit et coupa court aux réflexions de Madame de Chélanne sur ce que cette aimable dame appelait agréablement une escapade. En prêtant l'oreille, il m'était facile d'entendre les propos désobligeants de Marie.
« Comme c'est ridicule ce que vient de faire Mademoiselle Duhaumont !»«
C'est simplement imprudent. »«
Oh, vous la défendez ?»«
Elle n'a pas besoin d'être défendue, et puis que vous importe ?» répondit André en ajoutant, à voix basse, quelques mots qui dissipèrent les velléités jalouses de cette pauvre sotte. Le mécontentement de mon cousin avait disparu et il était de nouveau sous le charme d'une jolie figure et d'un sourire charmant. Je me sentais si lasse que je fus heureuse de n'avoir pas à parler. D'un œil stupide, je contemplais la cour d'André en songeant combien il était inutile de se développer et de s'instruire pour le mari futur. À quoi bon ? Les circonstances me permettaient d'observer de très près un homme assurément bien au-dessus de la moyenne et auquel rien suffisait pour bâtir son foyer. Il n'en était pas, il est vrai, à l'expérience. Lorsque, dans l'intimité quotidienne, il devra porter le poids non seulement de ses travaux, mais d'une inintelligence qui percera dans les moindres détails de sa maison, lorsque nul son ne répondra à celui de son cœur et de son esprit, que deviendra-t-il ? Après le départ de la famille du Chélan, il se promena de long en large dans la salle à manger. Je l'ai vu plus d'une fois se livrer à cet exercice quand il était vivement préoccupé. Il apparut soudain dans le salon.
« Comment n'êtes-vous pas encore montée, Jacqueline ?»«
Je me retire, » répondis-je. « Mais vous paraissez croire que je suis en fragile porcelaine. C'est une grande erreur. »
« Vous serez plus raisonnable une autre fois, j'espère bien. »«
Je ne promets rien. »«
Voyons, » dit-il en prenant immédiatement ses grands airs. « N'oubliez pas que nous sommes responsables de votre santé et de vos actes. » Franchement, Mademoiselle Duchélan avait raison de trouver cette sortie absurde. Le nom et la maladresse me jetèrent dans une irritation folle.
Elle n'aurait certainement pas commis cette absurdité. Elle a été ultra raisonnable dans sa façon d'accueillir votre aventure.
Je n'avais pas fini de parler que j'aurais donné n'importe quoi pour n'avoir pas lancé cette phrase méchante. Rien ne peut exprimer mes remords et mon chagrin. Quel élément nouveau est donc en moi pour changer ainsi ma nature ?
Elle est encore un peu enfant, répondit André d'un ton indécis qui me fit mal, tant il contrastait avec ses habitudes et me prouvait que mon coup avait porté.
C'est vrai, répliquai-je, elle est un peu enfant, mais charmante, et n'ayant pas vu le danger, elle ne pouvait l'apprécier. Après avoir ainsi fait de mon mieux pour corriger ma méchanceté précédente, je montai chez moi et me couchai promptement. Libre de ne pas me contraindre, j'éclatai en sanglots et je crois que cette explosion de mon chagrin était due surtout à mes remords. J'étais au désespoir de l'avoir atteint au cœur. J'aurais bataillé jusqu'à la dernière minute quand seules ses prétentions orgueilleuses étaient en jeu, mais aviver une blessure déjà oubliée, c'était mal. Peu à peu, je me calmai et m'assoupis à moitié. Lorsque je sortis de ce demi-sommeil, je vis ma tante près de mon lit. « J'ai aperçu de la lumière dans ta chambre, Jacqueline, et je suis entrée pour savoir si tu te reposais enfin. Tu avais l'air fatiguée ce soir.
Mon Dieu, j'ai eu peur, et puis ce grand vent ?»
Elle tenait ma main et la caressait doucement.
Pauvre petite, comment pouvais-je me douter ?
Vous doutez ? Dis-je alarmé et avec une surprise qui n'était pas feinte.
Mais oui, répondit-elle simplement, pouvais-je me douter que tu sortirais par un temps pareil ?
André a fait plus que moi et il n'en résulte aucun mal, dis-je en respirant fortement comme si je venais d'échapper à un danger.
André est un homme, cela n'a aucun rapport. Le résultat pour toi n'est pas brillant si on en juge d'après ta mine.
Demain, il n'y paraîtra plus. Je vais dormir et je serai assez bien pour aller chez Mademoiselle de la Flange qui réclame une visite.
Madame d'Arlancé se pencha pour m'embrasser et borda mon lit comme celui d'un petit enfant.